une vue d'ensemble de l'actualité. Voici Robert Pilote.
Avant de parler à Annie Guillemette, un mot pour vous parler d'un gars qui s'appelle Juan Pablo Serrano, soupçonné d'avoir acheté et d'avoir eu en sa possession la majeure partie des données personnelles qui ont été volées chez Desjardins, les vôtres peut-être. Serrano est un individu connu des policiers impliqués autour des années 2005, 2006, 2007 dans des délits relatifs à de la fraude, notamment il installait des terminaux pour paiement par carte de débit, par de faux terminaux. Selon le bureau d'enquête du Journal de Montréal, des informations qui circulent à l'effet qu'il circule au volant d'une voiture Lamborghini d'une valeur de 300 000 $. Alors, c'est quelqu'un qui doit faire un petit peu d'argent avec ce type de fraude-là. Nous y reviendrons plus tard. Ça se passe encore une fois au procès d'Hugo Fredette. On a amorcé la discussion avec Annie Guillemette hier. Il était bien question d'un enfant qui était utilisé comme bouclier humain. Ça s'est précisé un peu plus aujourd'hui. Annie Guillemette, bonjour.
Oh, bonjour, Robert.
Alors, on s'en doutait bien hier avec la description que tu as faite de l'arrestation d'Hugo Fredette par les policiers, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Là. Il y a un enfant qui était effrayé, qui avait peur, qui était sans dessus-dessous, qui pleurait d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui l'utilisait comme un bouclier humain.
C'est ça. Parce que Fredette tenait cet enfant-là par la nuque, on en avait parlé hier, et avait de l'autre main un bâton, faisait des gestes comme pour le poignarder, sans le toucher cependant, et tenait constamment l'enfant devant lui. Bon, on comprend là, que l'enfant avait 6 ans à l'époque, il est pas mal plus petit que le goût Fredette, qui est quand même un gaillard, mais tout de même, le jeune était devant lui, il voyait des policiers qui étaient là avec une arme longue pointée sur eux. Donc, cet enfant-là était presque hystérique, il pleurait sans cesse, il criait, il était en sanglots, il était bien sûr effrayé, on s'en doute un peu. Et aujourd'hui, le procès du Hugo Fredette s'est poursuivi avec l'audition de la policière qui s'est justement occupée du garçon. Donc, Pamela Côté, elle travaille à la police provinciale de l'Ontario et elle est venue expliquer comment elle a été capable d'agripper l'enfant alors que son collègue avait envoyé une impulsion électrique avec ce qu'on appelle dans le jargon un taser gun à Hugo Fredette pour pouvoir le paralyser pendant quelques secondes. C'est de cette façon qu'elle a pu récupérer l'enfant, l'amener en lieu sûr dans une voiture patrouille. Et à ce moment-là, on a appris aujourd'hui qu'elle a constaté que l'enfant avait des marques rouges sur le cou. Donc, probablement que ça faisait quelques instants là, que les doigts de Fredette le serraient sur le cou, suffisamment en tout cas pour avoir des marques rouges. Elle a donc tout de suite envoyé l'enfant à l'hôpital pour s'enquérir de son état de santé. Globalement, physiquement, il allait bien. On a quand même pris des photos judiciaires de ces marques-là. Les photos ont été présentées aujourd'hui au jury, qui, bien sûr, encore une fois, était très attentif à ce qu'on leur racontait. Hugo Fredette, lui, était dans le bas des accusés, fidèle à son attitude. Il a observé les photos un moment, mais tout de suite retourné à sa prise de notes tout de suite après. Et donc, on a compris un peu comment ça s'est passé, cette arrestation-là, du point de vue de l'enfant. Une fois à l'intérieur de l'autopatrouille, il a continué à hurler, à réclamer de voir Hugo Fredette. Il pleurait, comprenait vraiment pas ce qui se passait, même si la policière lui a demandé s'il parlait anglais, et il a répondu oui. Donc, elle lui a demandé s'il voulait manger, boire, tout ça. L'arrestation s'est déroulée sur un terrain privé. Le propriétaire de la maison a sorti un pop sécuro pour l'enfant. Ça l'a un peu réconforté, mais bon, on comprend là, que la situation était dramatique pour lui. Et donc, on a pu amener l'enfant à l'hôpital, et c'est la dernière fois donc qu'il a été sur cette scène-là troublante et difficile, on le comprend. Et par la suite, Robert, on a eu un autre policier qui, lui, a été celui qui a fait l'arrestation de Hugo Fredette, celui qui a eu les droits en anglais, qui l'a menotté. On sait que ça a pris plusieurs agents hein, pour le maîtriser, 7 impulsions du pistolet électrique pour parvenir à le menotter. Et il nous a expliqué qu'à la seconde où Fredette a été menotté, il était couché au sol, avait le visage vers le sol, vous êtes dit. À partir de ce moment-là, il a fermé les yeux et il a arrêté, pas juste de parler, là, mais même d'interagir avec nous. On lui a lu ses droits à plusieurs reprises. Il a même pas fait signe qu'il les comprenait. On a finalement trouvé un agent, un policier qui parlait français. On lui a relu ses droits en français. Il n'a pas non plus fait aucune réaction. Il a été placé dans une voiture patrouille. C'est à côté la tête sur le devant. Vous savez, dans les voitures patrouilles, Robert, la voiture est souvent divisée d'avant à arrière. Il y a une petite fenêtre de plexiglas entre les deux. Donc, Fredette se serait appuyé la tête là-dessus. Il a fermé les yeux. En fait, il avait toujours les yeux fermés, même quand il marchait vers la voiture patrouille. Il marchait les yeux fermés. A jamais ouvert les yeux, a jamais non plus adressé la parole aux policiers. Et même une fois en cellule, il n'a rien dit. Et c'est là qu'on a saisi ses vêtements. On a pris plusieurs photos de lui aussi, qui avait quelques égratignures aux mains, entre autres, et une coupure au front. On a vu ces photos-là aujourd'hui et on a constaté que deux choses importantes. Sur son poignet gauche, Hugo Fredette arborait, on ne sait pas s'il a toujours, un tatouage avec le nom dessus, Véronique. C'est le nom de la première victime alléguée, son ex-conjointe Véronique Barbe. Et aussi, les vêtements qu'il avait sur le dos étaient des vêtements de très petite taille, de grandeur 32 en général, médium pour le gilet, alors que ses sous-vêtements étaient de taille extra large. Donc, on verra si ces informations-là vont vouloir dire quelque chose un peu plus tard dans le procès. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué à suivre. J'ai parlé à des gens qui venaient assister au procès et se demandaient pourquoi on parlait de la taille des vêtements. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est un morceau du casse-tête. Plus tard, les avocats vont nous refaire le casse-tête au complet et là, on aura l'image globale à savoir qu'est-ce qui est important et pourquoi. Bien sûr, on fait ça comme eux, on écoute et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On avance quand même bien dans la preuve de la couronne là, qui pourrait se terminer cette semaine, sinon en début de semaine prochaine.
Merci beaucoup. On va suivre tes reportages. Merci, Annie.
Bien sûr, au revoir.
Bye bye. Annie Guillemette, notre collègue reporter qui suit le procès d'Hugo Fredette, accusé d'avoir assassiné deux personnes, dont son ex-conjointe. Avant d'aller à la pause, un mot sur l'histoire de Justin Trudeau qui s'est déguisé un jour dans sa vie. Il s'est peinturé la face en brun, le Brown Face Gate, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Il y a un concert de réaction, ça vient d'à peu près partout, ça a été diffusé à l'échelle planétaire. Dernier élément, je pense que Justin Trudeau devrait prendre la parole là-dessus un peu après 2 heures aujourd'hui. Il y a la Ligue des Noirs du Québec qui se range derrière le chef libéral Justin Trudeau, qui, bien sûr, actuellement fait l'objet de sévères critiques, que ce soit à Québec ou à Ottawa. La Ligue des Noirs nous dit ici « Ceux qui critiquent le premier ministre Justin Trudeau nagent dans un bassin d'hypocrisie car ils n'ont rien fait pour promouvoir l'intérêt de la communauté noire et culturelle », dénonce l'organisme militant et de défense des communautés noires. Une courte pause et au retour. C'est un spectacle qui est attendu depuis un bon bout de temps. Richard Lachance, le promoteur, le réalisateur de tout ça, l'idéateur derrière ça, celui qui avait les contacts, celui qui a réussi à réunir tout ce monde-là sur la scène, doit être très, très heureux parce que les astres s'enlignent pour faire un grand succès. Tout ça au profit de la Fondation Albatros. Ça se passe à l'Amphithéâtre Cogeco ce soir. C'est salle comble, sauf que, puis là, je tiens à vous dire ça, là, il reste des places. Il va faire beau ce soir. On annonce autour de 20 degrés, 20-22 degrés. C'est magnifique. La surface gazonnée vous attend. C'est pas cher. Ça ne coûte que 20$. Je vous dis pour quelle raison il faut être là ce soir dans la région après la pause.